dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Salut à tous, merci de votre fidélité. Ça fait plaisir de vous retrouver comme chaque week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Qu'on va terminer aujourd'hui par un voyage dans le temps. On va traverser les époques et revenir sur la carrière et la vie de ce grand animateur radio, télé, producteur, DJ, humoriste, imitateur et chanteur. Vous pouvez en ce moment le retrouver sur la scène de la Comédie de Paris et en tournée pour son nouveau one-man show. Bonjour Koé.
Bonjour Déborah, comment ça va?
Ça va très bien, et vous?
Ça va. Alors voilà, on va vous dire un secret, dans la vraie vie on se tutoie parce que je crois qu'on se connaît depuis trop d'années pour le dire.
Pas tant que ça, faut pas exagérer. Même, mais si, non.
Et donc on va se dire vous alors, c'est très très bien. Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien et vous-même?
Magnifique, avez-vous passé une très belle semaine radieuse?
Merveilleusement bonne.
Bah écoutez, la mienne aussi, je suis ravi.
Alors ce qui m'interpelle déjà, c'est imitateur et chanteur, je ne savais pas.
Comme j'ai fait des disques, qui n'étaient pas des grands disques, mais Zidane, Il va marquer, etc., qui ont eu des succès, à chaque fois on a été dans le fameux top 50. Donc, je suis passé dans une catégorie chanteur. Et imitateur, oui, parce que je le suis pas.
Mais c'est dommage, je vais vous demander d'imiter quelqu'un.
Mais parce que je fais plein de voix et souvent dans les... En fait, c'est né des émissions de radio, ça. Mmh. Parce que je voulais faire des personnages et c'était trop compliqué d'appeler un imitateur. Donc, à force, je les ai fait moi-même.
Vous voulez que vous fassiez des causes? Bonjour Lou, bienvenue dans 50 minutes inside. Vous voulez que je fasse Jean-Pierre Foucault? Ça vous fait plaisir?
Ouais.
Bonjour à tous et bienvenue à la dernière de Qui veut gagner des millions. Bonjour Déborah.
Nouveau one man show donc, devant un public conquis. Ça s'appelle 100% libre. Et vous êtes bon, hein?
Ah bah c'est gentil. C'est gentil, mais en plus je me sens vraiment encore meilleur sur celui-là. En fait, le premier spectacle, je vais être honnête, je me suis un peu caché. Attends, je peux le dire. Je me suis caché derrière des artifices. C'est-à-dire, ouais, je me suis caché derrière un grand écran. Je me suis caché derrière une voix qui me répondait. Parce que j'avais un peu peur et parce que je me suis dit, mais si je suis pas très bon, autant que je mette des trucs autour de moi. Pour ce spectacle-là, je me suis dit non, on va arrêter tout ça et on va faire un vrai spectacle plus intime avec les gens. À la fin, je dis merci à 10 personnes dans la salle, prénom par prénom. Parce que je connais un bout de leur histoire. Il y a des jeunes sur la masturbation, il y a des plus vieux qui viennent de se marier, certains qui se sont rencontrés sur Twitter. Voilà, je m'amuse à connaître le public et être en intimité avec eux, en fait.
Donc il y a moins de doutes maintenant que par rapport au premier. Vous aviez douté sur le premier. Vous flippiez un peu ou pas?
J'ai un peu flippé de mes capacités comiques sur scène. Parce que je suis un garçon timide, madame. Et j'avais peur que mon corps n'aille pas avec ma bouche. C'est-à-dire que j'avais un peu peur que je puisse dire plein de choses, mais tout en étant timide dans la gestuelle. Au début, hein, je faisais pas le malin. Mes premières scènes, j'étais pas très bon dans le jeu. Et alors maintenant, je m'étonne moi-même à imiter la copulation d'un lion avec sa lionne sur scène et à me dire, mais c'est vraiment moi qui fais ça devant autant de gens.
Pourquoi 100% libre? Vous l'étiez pas complètement avant?
Si, mais je trouve qu'on l'est de moins en moins. Qu'il faut faire aujourd'hui très attention. Vous êtes obligé, sinon vous avez un censeur au-dessus qui s'appelle le CSA, qui des fois peut intervenir. Peut intervenir, je trouve, parfois un petit peu injustement. Alors dans ma vie, j'ai dit aussi des conneries qui le méritaient, attention. Hein. Mais j'ai trouvé que parfois... Bon, et puis après, je relativise. Vous savez, ça fait 25 ans que je fais ce métier. 5 ou 6 mises en demeure en 25 ans,
ouais,
c'est pas
ça
si
encore
énorme que ça par rapport à des milliers d'heures de radio.
100% libre, c'est donc en ce moment à la Comédie de Paris. Il y a plusieurs dates aussi en province. Lyon, Toulouse, les Sables d'Olonne. Vous avez évidemment toutes les dates sur le Facebook parce qu'il y a une page Facebook consacrée au spectacle. Koé, accrochez-vous, on va enclencher la télétransportation pour notre voyage dans le temps. Oh. 28 avril 1972, vous naissez à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Votre père est ouvrier à la sucrerie des Marles. Votre mère aussi était ouvrière là-bas?
Une des secrétaires de direction de la sucrerie. Oui.
Peu de gens le savent, mais à 10 ans, vous perdez votre maman emportée par un cancer. Vous vivez donc avec votre père. Quel rapport vous aviez avec lui après le décès de votre maman?
C'était quelqu'un de très gentil, de très réservé et de très calme. C'est-à-dire, on ne parlait pas beaucoup, quoi.
Et même le décès de votre maman, ça a pas libéré la parole un peu?
Ah, pas du tout. Non. Ah non, vous savez, vous avez beaucoup.
Vous n'en aviez pas parlé.
Moi,
du
mon
tout.
Père, il était du nord de la France. Il y a beaucoup de familles comme ça qui, plutôt que de s'ouvrir, c'est l'inverse, ils se referment un peu. Mmh. Mais c'est pas un signe de, ni de méchanceté, ni de... Non, c'est une forme de protection, c'est une forme de tristesse.
De
voilà, on a très très peu parlé de ça avec mon père. Et puis moi, j'étais très pudique aussi. Donc lui plus moi, autant vous dire que ça n'échangeait pas forcément beaucoup. Mais le peu qu'on échangeait, c'était dans de l'amour. Et si je fais ce métier, je pense que c'est grâce à mon père, qui a dit un jour, oui, ok, t'as 13 ans et demi, bah, je vais t'emmener à la radio qui est à 25 km. Puis je vais revenir chez moi, puis je vais revenir te chercher. Et qui a fait ça jusqu'à ce que j'ai mon permis.
Vous avez donc 10 ans hein, quand vous perdez votre maman. Vous en avez 20 quand vous perdez votre père. Il était malade, il s'est passé quoi?
Oui, c'est une forme de dépression. Puis un jour, voilà, puis un accident cardiaque. Et puis voilà, c'était très brutal. Très brutal. Donc, on n'a pas l'âge à 20 ans de gérer ce genre de truc.
Ouais.
Pas un âge normal. Quand vous avez vos copains qui partent en vacances, etc., avec vous, bah, vous gérez des choses d'adultes, quoi. Le rapatriement d'un corps, la banque qui veut vous voir, alors que bon, voilà, mon père était ouvrier, donc imaginez, on fait vite le tour des biens. Hein. C'est pas un héritage conséquent. Donc, vous n'avez pas le temps de vous dire qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais être tout seul, comment je vais payer mon école, comment je vais vivre demain, puisque moi j'avais commencé à m'installer à Paris dans un petit appartement, mais ces questions-là, j'ai pas eu le temps de me les poser.
Koé, on va faire une petite pause. Qu'est-ce que vous voulez écouter là comme musique, spontanément? Un truc qui passe sur France Bleu, hein, me dites pas.
Je dirais, si je vous dis Dixie's Midnight Runners, Come on Eileen. Come on Eileen, c'est bien, ça avait été l'une meilleure chanson du monde.
Allez, on y va, un peu de musique et puis on revient dans un instant sur France Bleu. poursuit notre voyage dans le temps avec Coé, invité dans le rétro, et en ce moment à la Comédie de Paris pour son one-man show 100% libre.
Dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Vous commencez donc la radio super jeune. À 15 ans, vous êtes DJ sur NRL, la nouvelle radio de Laon. Ouais. Vous animez aussi quelques soirées le week-end. On va allumer l'autoradio maintenant.
Oh. Oh, oh, oh. Préparez-vous, dans l'heure qui arrive, vous entendrez Jean-Louis Murat, la nouvelle Lionel Richie, la Red Hot Chili Pepper, et pour bien commencer, la nouvelle James avec Sound, M40, 21h.
M40, on y va.
M40. C'est super, c'est génial, c'est M40.
Vous voulez que je vous dise un truc, M40 c'était RTL2, ça a changé de nom. Et quand je suis arrivé à Paris, le directeur des programmes était espagnol. Et le gars, il me reçoit et il me dit, vous écoutez la démonstration? Eh bien, mais le problème, c'est que vous n'avez pas une voix radiophonique. Et c'est pour ça que sur M40, au début, je parlais comme ça, M40 avec, parce que j'essayais d'avoir des graves que je n'avais pas. Puis au bout de 3 mois, je dis, oh, vous me saoulez, je vais prendre ma voix normale et puis c'est tout.
M40, c'est au début des années 90, vous rejoignez donc cette radio. D'abord comme stagiaire, puis comme animateur, vous avez trouvé votre voix assez vite, hein, finalement. Est-ce que depuis toujours, c'était un souhait pour vous d'être connu?
Je ne savais pas bien pourquoi, mais j'avais envie d'être connu. Je trouvais ça, quand j'allais voir des spectacles, quand j'étais gamin à Royan, les trucs d'été, vous savez, avec Plastique Bertrand à l'époque, Dorothée, Carlos, présenté par Jean-Pierre Foucault, les podiums RMC. Je voyais tout ça et je me disais, qu'est-ce que ça doit être bien. Tout en me disant, je n'aurais jamais le courage de le faire. Parce que la scène, c'était tellement... Moi, parler à des gens, c'était impossible. Et la radio a été pour moi un truc... très facile finalement, parce que je me suis dit, mais oh là là, je peux faire ce que je veux, dire ce que je veux, et je suis caché.
Est-ce que vous pensez maintenant qu'il faut encore du talent pour être connu?
Non, mais il faut du talent pour rester connu.
Coé, on va pas refaire votre CV parce que vous avez fait beaucoup de choses depuis M40 en radio, donc il y aura eu M40, Fun Radio, Skyrock, Énergie, Europe 2 devenu depuis Virgin Radio, où vous avez bossé aussi. Il y a les émissions, mais il y a aussi la direction d'antenne, et puis il y a la télé, télétransportation à l'ancienne. Nous sommes à Bercy, la salle est pleine, c'est le concert Dance Machine. Vous faites votre entrée sur scène.
Alors, vous avez vu, on est venu plutôt décontracté, en tout cas pour ce qui me concerne. Et on est ici pour Dance Machine 4. Vous aussi, vous avez intérêt à faire les cons, à vous amuser, à faire tout ce que vous voulez, ok?
Ça, c'est ma voix de stressé. Quand je stresse, je pars vers la voix de Nagui. Vous voyez un petit peu cette façon de parler qui est un petit peu, je repars dans les médiums et je saccade un peu. Ça, c'est la voix du mec qui est complètement stressé. Voilà. Et ben, ça, c'était exactement le cas. Je suis arrivé sur scène. J'étais, on m'avait dit, regarde les caméras là-bas, là-bas, là-bas. Évidemment, à Bercy, la caméra, elle est à 30 mètres. Autant vous dire que je ne voyais rien. J'étais avec des co-animateurs qui avaient tout compris l'inverse de ce qu'on m'avait dit avant. Donc c'était ça ressemblait à rien, mais c'était une expérience magique.
Après vos premiers pas à la télé avec les concerts Dance Machine, M6 donc vous confie une émission Allo Coé. Il y aura aussi la rediff de vos émissions radio sur MCM et le 11 septembre 2003 débarque sur TF1 l'émission La Méthode Coé. Gros carton, ça y est, ce que vous vouliez depuis tout petit, vous l'avez obtenu, la notoriété. Une fois qu'on l'a, on se dit quoi, que c'était mieux quand on était connu ou anonyme?
Alors, d'abord, ça n'a pas été le gros carton tout de suite. La chaîne nous avait envoyé une lettre en disant que si ça remontait pas, ils arrêtaient. Et je crois qu'on a eu une émission charnière. Où, je me souviens, il y avait Michael Youn, il y avait David Douillet, si je dis pas de bêtises. Et d'un seul coup, on est passé de 20-22% de part de marché à 35%. Et ça a duré pas mal d'années, à mon grand étonnement d'ailleurs, mais...
Mais c'était un gros carton. Après, c'est devenu une émission culte.
Oui, mais moi, j'étais...
On voit encore des séquences,
oui,
encore à l'heure actuelle.
Oui, et puis, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui, tous les jours, me disent « Mais qu'est-ce qu'on revient ?» Et c'était culte. Alors, comme tout ce qui est culte, ça reviendra un jour. Ça reviendra quand toutes les envies seront alignées, seront réunies. On est en train de... On a des propositions, d'ailleurs, c'est très étonnant, on a des propositions. On y réfléchit avec Cécile, puisqu'on bosse là-dessus. Parce qu'on a envie, elle et moi...
Avec Cécile ?
Ah bah oui, si on refait la méthode... Bah, je peux pas la laisser, c'est un peu... On est vraiment liés sur cette émission. Je crois pas que je pourrais refaire la méthode, parce qu'on m'a posé la question. Il y a des diffuseurs qui m'ont dit, alors, avec Cécile, sans Cécile, avec la bande de l'époque, nouvelle bande. Non, je crois pas. Je crois que si on doit la refaire, on doit la refaire ensemble.
Ouais.
Après, si on repart sur une centaine d'émissions et qu'un de nous deux n'a pas envie, ça c'est un autre choix. Ouais. Mais je pense que le redémarrage, obligatoirement, c'est ensemble ou pas.
Dans le rétro, notre invité aujourd'hui, c'est Coé. On revient dans un instant sur France Bleu. Vous écoutez France Bleu, l'émission c'est Dans le rétro. Chaque week-end, on passe une demi-heure avec un invité qui fait l'actu. Aujourd'hui, c'est l'actu culturelle avec Coé pour son one-man show 100% libre.
Dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grünwald.
Fin des années 90, début des années 2000, tout vous sourit, vous avez votre boîte de prod, à la radio vous cartonnez, à la télé aussi. Plus qu'un personnage public, vous êtes devenu une marque à part entière, la méthode Coé. Coé retourne la télé, pas de vacances pour Coé, la Coétidienne, Coé TV, ça va se Coé, bienvenue chez Coé. Il y a même le Coé Burger, à la radio après Coé Slash, votre émission s'appelle C'est Coé. Ça fait beaucoup de Coé, ça.
Ben en fait, non, c'est que je me suis rendu compte très très tôt et j'ai peut-être été le premier à oser mettre mon nom dans toutes les marques d'émissions parce que c'était pas de la prétention.
Non, c'est mais que... ça peut passer pour.
Non, vous savez, des fois, vous pouvez faire les plus beaux slogans, c'est quand même la marque qui reste le plus important. Mmh. Je me suis rendu compte très vite que Coé, c'était une marque et que autant que les gens qui zappent sur un programme télé, ben quand ils voient nananana. Coé, ils se disent, bon, bah, c'est avec lui. Ça a été plus souvent couronné de succès de mettre mon nom dans une émission que de pas le mettre. Je pense que on vous repère beaucoup plus facilement dans un programme télé ou aujourd'hui sur Internet quand votre nom est dedans. Après, on vous aime, on vous aime pas, mais au moins c'est dedans. Je crois que Cyril a fait ça après avec du Baba dans tous les sens.
Ouais, ça reste Baba, c'est pas Hanouna.
Ouais,
c'est pas Hanouna Show, Hanouna Machin, Hanouna Truc.
Ouais, ça change pas grand chose. Mais c'est un moyen mémotechnique. Ça veut dire que les gens ont compris que quand ils voient Nanana Baba, bon, bah, ça y est, on sait que c'est avec Cyril et que ça va pas être un truc d'enquête sur C8.
On va regarder dans le pare-soleil, Coé. Allez-y.
Le pare-soleil, c'est donc une feuille de papier.
Non, mais ne dévoilez pas nos secrets. On avait dit que la radio, justement, ça nous permettait de raconter n'importe quoi.
Bien sûr. Donc, il y a un pare-soleil à France Bleu. Bien sûr. Voilà. Vous avez
oui, parce qu'on est dans une machine à voyager dans le temps. Et dans les machines à voyager dans le temps, il y a des pare-soleils.
Bien sûr.
Donc, là, dans le pare-soleil, il y a deux photos de vous. C'est la métamorphose. Vous avez perdu pas mal de kilos. Capillairement aussi. Enfin, capillairement, non.
En fait, capillairement, j'ai pas. Ce que les gens, des fois, disent, il a perdu ses cheveux. Je vais m'adresser à tous les mecs qui perdent leurs cheveux. Les gars, achetez-vous une tondeuse. Vous allez faire des économies de coiffeur de dingue. Les femmes aiment plutôt bien ça parce que c'est rentré dans les mœurs. Et puis, excusez-moi, qui sauve le monde? Les chauves. Bruce Willis, Vin Diesel, faites le tour, Jason Statham, The Rock, que des chauves.
Qu'est-ce qui a changé, Coé, entre ces deux photos et pendant ces 10 ans?
La taille des pantalons, déjà. J'ai mangé différemment. Je ne mange plus de viande. Pas parce que je suis devenu à la mode total vegan. Parce que je trouvais que c'était pas très bon pour la santé d'en manger trop. Je sais que les bouchers, ça les fait hurler. Mais je pense qu'il faut manger de la viande. Vous savez, je me bats avec ma fille pour ça, qui, elle, est passée végétarienne. Elle a 16 ans, je lui dis, tant pis, vous allez peut-être hurler, vous qui m'écoutez, je trouve que c'est une connerie d'être végétarien à 16 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, en plus, vous avez beaucoup de choses qui sont issues de la transformation. On vous vend des trucs marqués soja, qui sont des merdes abominables remplies de sucre, remplies de gras, sursalées, et sous prétexte de ne pas manger de viande, vous mangez toutes les autres saloperies qui sont très mauvaises pour votre corps. Donc, j'essaie de lui expliquer qu'il vaut mieux manger encore un tout petit peu. Mais voilà, moi j'ai arrêté la viande rouge, j'ai arrêté tout ça, j'ai arrêté ce qui est gras, j'ai arrêté tous ces trucs-là.
On vous sent plus épanoui, mieux dans votre peau. Là, vous revenez avec un spectacle, ça s'appelle 100% libre. Il s'est passé un truc.
Non, je suis bien. Je me sens beaucoup mieux à 46 ans aujourd'hui que à 35 ans, même pendant la période de la méthode. Ça rend pas forcément très très heureux ce côté hyper médiatisé. Parce que moi, j'ai toujours eu un énorme doute. Qui est toujours le même, hein. Quand vous êtes numéro un, vous ne pouvez que retomber. Après, si vous êtes malin, vous remontez. Prenez la carrière de Johnny, star, ringard, voilà. Et vous prenez tous les artistes, vous pouvez faire Michel Sardou.
Donc, Coé aussi, ringard,
je sais pas, mais j'ai vu pas mal de fois dans ma vie des commentaires où on disait, ça y est, il est fini. On le reverra plus. On l'entendra plus. Puis boum, je réapparais derrière sur un truc encore plus fort. On dit, ah oui, bon, d'accord. Ah bah, gros succès, Coé, hein. Incroyable, Coé. Mais, ouais. Mais là, je m'intéresse à ma petite personne, mais c'est le principe d'une vie. Le plus fort, c'est de travailler pour à chaque fois essayer d'être là et d'être présent. Et de continuer de s'amuser. Je sais plus ce que je disais au début, mais.
Non, mais que vous aviez douté aussi un moment.
Le fait d'être numéro un est très angoissant. Ouais. Très angoissant. Parce que les gens inconscients sont les plus heureux. Vous savez, vraiment, hein. Je pense que les gens qui ne réfléchissent pas et qui s'aiment au point de s'aimer plus que tout le reste, je pense que ces gens-là sont les plus heureux du monde. Ils ne doutent jamais. Moi, il m'est arrivé de voir des humoristes, dans les coulisses, où on faisait des fois des spectacles à plusieurs, rentrer sur scène, se prendre un bide, et sortir de scène et dire, pouf! Je les ai eus, là. Donc, je me dis, mais c'est pas possible, on a vu la même chose, on a... Voilà, il y a des gens qui ont une tellement haute estime d'eux qu'ils ne doutent jamais. Ce qui est un peu tout l'inverse de moi.
Ouais.
Et je doute tout le temps. Et donc, pour toutes ces raisons, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui parce que quand il y a un truc que j'aime pas, je le fais pas. Quand il y a un truc que je sens pas, je le fais pas. C'est puis dans ma vie aussi, voilà, je me sens bien. Et je me suis retrouvé il y a pas longtemps à la terrasse d'un resto. J'étais pas bien ce week-end-là. Il y avait un truc qui allait pas. J'étais entre deux radios, voilà. Je bougonnais. Tout de suite, je voyais toute la vie en noir. Et il y a une dame qui me tapote et qui me dit, est-ce que vous pourriez faire une photo avec mon fils? Je me lève et je vois un gamin en fauteuil roulant, qui a un sourire, mais incroyable. Et je fais la photo avec lui et elle me dit, oh là là, vous pouvez pas vous imaginer comme vous le rendez heureux. Et le gamin m'a dit 10 fois merci. Et je me suis assis, je me suis dit, mais je n'ai pas le droit de je vois ce gamin qui ne marchera jamais, qui est heureux comme tout de m'avoir vu pendant 3 secondes. Et moi, je suis pas content parce qu'il y a un P qui coince dans ma vie. Et ben voilà. Et ben des fois, il y a des petits rappels à l'ordre comme ça dans la vie où on vous dit, non, t'as pas le droit de te plaindre, en fait.
Merci, Coé.
Merci à vous.
Alors, on vous retrouve donc en ce moment tous les lundis. C'est à la Comédie de Paris, à Paris.
À Paris, à Paris.
Pour 100% libre, en tournée dans toute la France. Les dates sont sur Facebook. 100% libre, c'est un one-man show à faire pâlir de grands humoristes, à la fois intimes, délirants, interactifs et conviviales. Si vous n'avez jamais vu Coé sur scène, franchement, allez-y vraiment. Merci à vous tous d'avoir fait ce petit voyage dans le temps avec nous. Passez un excellent week-end, profitez et prenez soin de vous. Salut.
Merci, à bientôt.